Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 13 novembre 2025, en direct des studios de choc.ca à l'UQAM à Montréal. Donc, émission en direct comme à tous les deux jeudis. On vous rappelle qu'on est aussi un balado, donc disponible sur le site de choc.ca, sur notre site à nous aussi et un peu partout sur les plateformes. Donc, aujourd'hui à l'émission, je me présente, Mathieu au micro pour cette émission à l'animation aujourd'hui, en compagnie de Marie-Ève.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Marie-Ève. Simon est à la mise en onde pour l'instant, mais va venir nous rejoindre plus tard pour du contenu.
Bien sûr.
Bonsoir. On a deux invités, on vous les présente dans quelques instants. Juste vous dire, on a une entrevue donc dans quelques secondes, mais on va aussi parler ce soir. On va voir les actualités autochtones, on va parler de police et racisme, on va voir les actualités britanniques, les actualités de l'Afrique de l'Ouest aussi. Et il y aura évidemment notre agenda antiraciste et trois pièces musicales au courant de l'émission. Donc, on commence à l'instant. Le 23 novembre prochain aura lieu la première manifestation à Montréal d'un nouveau collectif, le Front antifasciste populaire. Dans le contexte de montée de la droite populiste et de l'extrême droite ici comme ailleurs, nous recevons deux porte-paroles pour discuter des prémices de la création de leur groupe, des enjeux politiques actuels, de l'état de la résistance et des mobilisations à venir. Raphaël et Manu, bienvenue.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être là.
Donc, merci de l'invitation.
Fait plaisir. On saute sur les nouveautés, évidemment, quand ça nous intéresse. Donc, première question pour bien mettre la table. Pouvez-vous nous présenter le Front antifasciste populaire et pourquoi le créer maintenant?
Oui, absolument. Dans le fond, le Front Pop, ça vient un peu de deux constats qui ont émané du milieu antifasciste. Le premier, les deux sont un peu déprimants, là, à certains égards. Le premier, en fait, c'est que la lutte antifasciste, disons, aux différentes formes que peut prendre l'extrême droite, c'est resté très cantonné, disons, au milieu de gauche ou voire d'extrême gauche. Donc, on n'a pas réussi vraiment à sortir, dans les 10 dernières années, vraiment des milieux un peu déjà convaincus, disons-le de même. Donc, c'est pas devenu grand public. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que les figures ou les idées d'extrême droite ont changé de porte-parole un peu. Si on voyait que les idées, admettons, qui étaient véhiculées par des groupes de droite populiste ou d'extrême droite, voire néo-fascistes, on peut penser, admettons, à la Meute, Atalante, les soldats de Dain, etc.
Genre Bonnet, là,
mettons. Bonnet, exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, leur discours, leurs idées ont été soit récupérées directement par des partis politiques ou, en fait, se sont retrouvés à être un peu institutionnalisés. Ça nous amène à porter le regard, à se dire, on peut pas lutter contre un groupe, admettons, contre Atalante, on peut pas lutter contre le gouvernement, par exemple, ou la CAQ, de la même manière qu'on le ferait avec Atalante, par exemple.
Donc, moins dans la rue, mais plus d'autres niveaux.
Ouais. Le concept, c'est de se dire, on n'a pas le choix de changer de stratégie. Grossièrement, le Front Pop, c'est ça. Ça a émergé de collectifs, individus, qui étaient déjà dans la mouvance antifasciste ou qui luttaient déjà contre l'extrême droite. C'est des gens qui viennent de divers milieux, là, que ce soit plus groupes politiques affinitaires, milieux syndicaux, communautaires, etc. Bon. Qui ont décidé de se regrouper. Dans l'année, on a tenu plusieurs assemblées, pour jeter les bases de la fondation du Front Pop. Et c'est ça. Donc, on est sorti comme publiquement dans les faits à partir de la fin août, début septembre. Mais on avait déjà organisé, par exemple, c'était pas nous qui avions organisé le rassemblement contre la présence de Nouvelle Alliance le 19 mai dernier à Montréal.
À la fin des Patriotes.
Exactement.
Ou... Ouais.
C'est ça. Donc, nous, notre objectif, au final, là, c'était de se dire, on veut rendre l'antifascisme, leur donner, disons, ses lauriers populaires. Là.
OK.
Le remettre dans l'espace public, vraiment pour qu'on se dise, pour que ce soit un réflexe de se dire, si t'es pas antifasciste, t'es quoi, tu sais? Parce que si t'es pas antifasciste, il y a
il y a pas 18 options. Là,
non, anti-antifasciste.
Tu peux être anti-antifasciste.
Exactement. C'est ça.
Et comme les deux négations s'annulent, ben
c'est ça, exactement. C'est assez blanc ou noir, là, mais bon, on l'assume. Donc, nous, en fait, on voulait être un des visages de l'antifascisme. Donc, on n'aura pas le monopole sur la lutte, et c'est vraiment pas ça notre objectif. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est on veut offrir des espaces de mobilisation, tu sais, qui sont peut-être plus grand public, pouvoir faire de l'éduc pop, etc.
Donc, faire des podcasts.
Faire des podcasts,
entre autres. C'est un angle mort.
Faire les médias
antifascistes.
Oui, tout à fait. Est-ce que pour vous, la situation aux États-Unis où le nationalisme blanc, la chasse aux étrangers, le discours anti-gauche et la guerre aux minorités sont, et la guerre aux minorités sont mis de l'avant par différents acteurs politiques et médiatiques officiels et plus underground, est-ce que ça prédispose de ce qui se passe déjà ou pourrait se passer ici au Québec, au Canada pour vous?
Oui, je pense que le Québec est toujours un peu à la traîne des courants politiques aux États-Unis, mais aussi peut-être de manière un peu plus marginale en France. On l'a vu une première fois en 2016 avec la première élection de Trump, quand il y a eu aussi les manifestations de Charlottesville, la montée des Proud Boys, de l'alt-right américain. À quelques mois de retard, ça a eu un impact immédiat ici. On a vu PJ de Québec. Après ça, la montée de la Meute, Storm Alliance, Soldat de Dain, même s'ils existaient déjà, une grosse montée en puissance de Atalon de Québec. Puis même, là, admettons, des mouvances un peu QAnon, qui ont quand même aussi fait écho ici. Fait qu'on voit que ici on est tout le temps impacté là, un petit peu quelques mois en retard là, sur ce qui se passe aux États-Unis. On l'a vu dans la rue, mais même au niveau gouvernemental, t'sais, on peut témoigner là qu'en ce moment, il y a des charges vraiment décomplexées. T'sais, il y a deux ministres du Travail. Il y a Jean Boulet qui affirmait que 80% des immigrants à Montréal parlent pas français, travaillent pas, puis veulent pas s'intégrer aux valeurs québécoises. Ce qui est évidemment basé sur aucune évidence statistique. Le petit même au-delà de comme d'une petite erreur statistique, c'est comme, tu sais, c'est aux opposés, ça n'a aucun sens avec les chiffres qui existent. Puis c'est drôle, ça m'a peut-être un peu aidé aujourd'hui, je crois bien, Jean-François Roberge, qui dit encore une fois, là, il a baissé un petit peu, ils sont passés de 80 à 50, il y a 50% des demandeurs d'asile qui ont permis de travail, ne travaillent pas. Son propre gouvernement a démenti la journée même, en disant qu'ils avaient pas de chiffres. Fait que, tu sais, on voit encore une fois que ici aussi, c'est peut-être toujours un peu la version vanille qu'on a. Ouais. C'est un petit peu moins assumé là, que ce que Donald Trump fait aux États-Unis. Mais on voit quand même, je pense, qu'il y a un impact. Puis aussi, je pense que le gouvernement est comme face à ses propres échecs puis cherche des boucs émissaires faciles. On peut parler de ses poussées xénophobes, mais même aussi dans le domaine un peu de la guerre culturelle, qui sort un décret qui interdit le langage inclusif. Je sais pas qui que ce soit a à gagner, mais c'est des cibles faciles pour gagner des points dans l'électorat. Puis même on parle de la CAQ, mais on peut parler de Pierre Saint-Paul-Plamondon, qui
on
va
en parle
dire...
souvent ici.
Ouais,
c'est une de nos têtes de turc, PSPP.
PSPP. Ouais. Puis qui va faire des croisades contre le wokisme, à tout le monde en parle. C'est drôle, je lisais son programme pour une raison obscure cette semaine sur le logement. Puis en première page, dans les premières pages du programme sur le logement, ils font des attaques contre l'immigration.
Ouais.
Tu sais, comme au lieu d'avoir des solutions à proposer sur comme tu sais qu'est-ce qu'on fait pour le logement, c'est comme c'est la faute des immigrants. C'est ahurissant. Ouais. Puis dernièrement là-dessus aussi, sur le paysage médiatique, je pense qu'il y a vraiment un glissement continu de la fenêtre d'Overton qui va là, de plus en plus vers la droite. C'est encore une fois des discours xénophobes, islamophobes, anti-woke. T'sais, je pense que de manière concrète, admettons, on peut prendre un Mathieu Bock-Côté, même s'il s'est exilé en France pour aller remplacer rien de moins que Éric Zemmour. Sur les plateaux télé, il intervient encore régulièrement là, malheureusement sur le
paysage de Montréal.
Puis il y a beaucoup d'amis ici.
Ouais, il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup d'influence, puis il intervient beaucoup. Tu sais, quand lui il parle ouvertement de grands remplacements, tu sais, c'est vraiment quelque chose que il y a 10 ans ça n'existait pas au Québec. Tu sais, en 2014, parler de grands remplacements au Québec, ça se faisait pas. Je fais une recherche Google tantôt. Il y avait rien. 2014 Québec, grand remplacement, ça n'existait pas. Puis là maintenant, c'est quelque chose qu'on voit de l'avant. Tu sais, ou même admettons, si on prend Rémi Villemur, tu sais, qui parle tout le temps de wokisme dans ses podcasts, de wokisme qui gangrène les universités, tout. Tu sais, c'est vraiment des thèmes de l'alt-right américain, vraiment spécifiquement. Puis là qu'on retrouve, tu sais, dans des médias mainstream québécois.
Mais la prochaine question, tu y as pas mal répondu dans les dernières minutes, mais je vais la poser quand même s'il y a un complément d'information. Je suis un peu l'avocat du diable. Là. Au Québec et au Canada, est-ce qu'on parle pas plus de populisme identitaire, laïcité, stigmatisation des migrants, de néolibéralisme, là, un peu crasse, là, anti-syndicalisme, anti-gauchisme, et de law and order, on le voit avec les gouvernements qui font des budgets militaires actuellement, sécuritaires à la frontière, que de droite radicale vraiment dans les partis politiques? Ben, les médias, je pense qu'on peut s'entendre qu'il y en a, mais dans les partis politiques, vous trouvez vraiment qu'il y a une droite radicale actuellement?
Ben, je dirais peut-être plutôt comme ça. Comme Raph l'a dit, ben, effectivement, tu sais, on voit l'influence, admettons, des penseurs d'extrême droite comme Mathieu Bock-Côté, récupéré, adopté. Il a des oreilles très attentives, admettons, au PQ ou à la CAQ. Donc déjà, ben nous notre logique, c'est de se dire, ben on va pas attendre que des partis politiques cochent littéralement toutes les cases pour commencer à leur attribuer des valeurs associées à l'extrême droite. T'sais. J'aimais bien la formule, un camarade du Front Pop nous expliquait, c'est une citation qui vient d'un auteur indien qui disait, on a un peu le fascisme qu'on mérite. Donc, on n'aura probablement pas au Québec, tu sais, un fasciste qui aura le même visage, admettons, que dans les années 20, 30, 40, il y a eu en Europe ou qu'on a pu voir, admettons, en Amérique latine, etc. On va avoir plutôt des porte-paroles, disons, de l'extrême droite, tu sais, qui vont y aller avec le gros bon sens, tu sais, ça va être des mononcles, là, au final, qui vont, au final, finir par adopter un peu soit des mesures qui généralement sont associées à l'extrême droite, ou du moins aller piger dans leur discours.
Oui. Mais aussi, si je peux me permettre, tu parlais, c'est peut-être une version soft qu'on a ici, ou comme tu disais, Raph, vanille, mais ben, pour le dire crûment, le caca, t'as beau rajouter de la vanille dessus, ça demeure ça de la goûte marre, ça même aussi. Le caca avec de la vanille dessus.
Ouais, exact. Merci Marie-Ève pour ce commentaire très, très imagé. On va aller écouter quelques notes de musique et on revient avec la deuxième partie d'entrevue avec les gens du Front antifasciste populaire aux Apatrides anonymes. Toujours avec Raphaël et Manu du Front antifasciste populaire. On en a parlé depuis le début de l'entrevue, mais je vais quand même poser la question à Raphaël. Donc, est-ce que cette accélération de la pression d'une droite qu'on appelle décomplexée un peu dans les médias là, de temps en temps, est-ce que ça change les priorités des organisations antiracistes? Manu en a parlé un peu au début qu'on s'adapte là, selon la situation. Puis il n'y a pas un monopole non plus, il y a différentes personnes. Mais est-ce que pour vous, ça change un peu quand même les priorités?
Oui, mais 100%. Tu sais, justement, je veux pas trop répéter, mais c'est en réponse à l'évolution de ce contexte-là que le Front Pop a été créé. Tu sais, je pense que vraiment le but maintenant, c'est d'avoir une organisation qui est capable, tu sais, d'offrir un point de contact aux gens puis d'avoir une face beaucoup plus publique. Tu sais, justement, je le dis en rigolant plutôt, mais c'est vraiment ça, c'est de faire des podcasts, c'est de faire des entrevues, tu sais, des groupes antifascistes anonymes qui font comme, tu sais, de la surveillance de rue, des contre-manifestations, etc. C'est pas les outils. Tu sais, qu'on peut aller vers les gens, puis on peut pas rediriger non plus les gens. Tu sais, on voulait créer un groupe où est-ce que s'il y a un universitaire, un cégepien de 18 ans qui nous écrit, qui dit « Hey, je veux m'impliquer dans l'antifascisme », avant, on savait pas quoi lui dire, parce que, tu sais, ça se faisait plus de manière affinitaire. Mm. Mais là, tu sais, on veut vraiment créer un visage public de l'antifascisme. Mais tu sais, encore une fois, on veut vraiment pas avoir le monopole, puis on va accueillir toute autre alternative, mais on voulait vraiment au moins pouvoir créer ce premier point de contact-là.
Fait que dans ce contexte, les moyens privilégiés pour contrer la présence de ces différentes droites dans l'espace public et médiatique, vous parliez que, bon, y aura toujours des groupes qui vont faire de la bataille de rue, qui vont faire de l'affichage sauvage, qui vont faire tout ça. Y a aussi, bon, les manifestations pour prendre l'espace public quand même aussi. Et au niveau médiatique, ben, y a toute la guerre un peu ou la contre-guerre au niveau de la propagande. Donc, c'est quoi vraiment vos moyens privilégiés actuellement dans le contexte?
Ben, les nôtres, de facto, tu sais, ça va être un peu justement, tu sais, organiser, bon, notamment, mettons, la manif du 23 novembre, mm-hmm. Ou se dire, bon, ben, tu sais, plutôt que nécessairement utiliser la stratégie de la contre-manif, où est-ce que ça peut être difficile de mobiliser des gens par crainte de la confrontation, etc., ben, nous, on assume, admettons, ou on estime du moins que le 19 mai dernier, c'était somme toute un succès. Ça a permis de bloquer en partie Nouvelle Alliance. Ça a permis de les tourner en ridicule. Ils ont fini par repartir un peu à la queue entre les deux jambes comme des bozos. Donc, et tu sais, ça a été un événement festif où est-ce que ça s'est relativement bien passé. Donc, nous, ça va être ce genre de moyens-là qu'on va vouloir utiliser. On va évidemment vouloir aller aussi dans tout ce qui va être plus éducation populaire. Donc, tu sais, on aimerait ça dans un futur plus ou moins rapproché, tu sais, commencer à y aller plus avec des assemblées, des conférences, etc. Okay. Ou est-ce que les gens peuvent, tu sais, ouvertement assumer des positions antifascistes ou des fois les démystifier, tu sais. Je crois qu'un des travaux qu'on va avoir, notamment, ça va être d'aller justement décortiquer les discours d'extrême droite, puis justement aller dans les angles morts un peu, mais de manière avec un langage, disons, adapté, tu sais. Donc, tu sais, nous, ça va être ça, mais ensuite, on espère que des groupes, admettons, que ce soit communautaires, syndicales, des assos étudiantes, fassent le travail dans leurs propres organisations, leurs propres mm-hmm. instances, tu sais.
Oui, ça va prier un peu tout ça, là.
Oui, c'est ça. Ouais. Nous, tu sais, dans l'absolu, le Front Pop n'aurait pas tant de raison d'être, parce qu'admettons, toutes les différentes organisations feraient déjà ce ouais. travail-là. Donc, nous, ben, si déjà on peut servir de point de ralliement à certains égards, ou de prise de contact, ou c'est offrir des outils quand on peut le faire, ben ce sera ça de gagner. Mm-hmm.
Mm-hmm. Puis peut-être rappeler aussi la riche histoire, tu sais, du mouvement ou des mouvements antifascistes dans l'histoire, là, je veux mm-hmm. dire, si l'antisémitisme a reculé autant, si la Deuxième Guerre mondiale c'est fini, c'est grâce à la résistance puis au mouvement antifasciste, même que ce soit en Europe, mm-hmm. en France ou en Espagne ou en Italie mm-hmm. ou... Ça, j'ai l'impression que les gens ont oublié cette partie de l'histoire-là.
Mm-hmm. Même le mouvement Bonnet ici à Montréal, dans les années 80-90.
Absolument. Mais tu sais, je le voyais un peu, admettons, avec les groupes signataires pour notre manif du 23. Tu sais, je trouvais ça intéressant de voir, admettons, beaucoup de groupes de femmes, notamment, tu sais, mm-hmm. Prendre les devants, surtout qu'en ce moment, il y a une attaque assez impressionnante.
Ouais, un backlash.
Ouais, contre les droits reproductifs, etc. Là, donc,
Non, c'est sûr. Fait comment vous voyez l'évolution de la situation dans les prochains mois, à la fois sur la mobilisation dont vous êtes un des acteurs, mais aussi sur l'appui ou en tout cas le discours de la population par rapport aux droites extrêmes ou aux droites populistes? Puis est-ce que la gauche plus relaxe, plus molle, tu parlais des mouvements sociaux, mais aussi la gauche politique, qui est aussi mm-hmm. d'autres sortes de gauche aussi, mm-hmm. est-ce que vous espérez qu'ils vont embarquer un petit peu plus puis se rendre compte de la situation?
Mais tu sais, c'est sûr, au niveau un peu plus global puis macro peut-être, on va pas se cacher que ça augure pas super bien. je pense que tout le monde est au courant, je suis désolé s'il y en a à qui j'apprends en nouvelle, mais si on veut retenir là un petit peu plus du positif, on sent quand même vraiment qu'il y a comme un éveil, puis même, je dirais, comme une soif. Mm-hmm. Là, tu sais, c'est populaire, tu sais, on se fait écrire, on se fait inviter à différents endroits. Tu sais, il y a des groupes comme Alternative, il y a Contré l'extrême droite, tu sais, qui mm-hmm. nous a approché pour faire une conférence. Tu sais, on sent que les gens veulent parler d'antifascisme, d'extrême droite. Puis oui, on sent se révéler un petit peu, tu sais, d'une certaine partie, là, on va dire, d'une gauche institutionnelle. Mettons, on pourrait dire. Fait que ça, ouais, je pense que c'est...
C'est mieux que molle, ouais.
J'essaie d'être poli. Mais si on veut tisser des liens, faut.
On va essayer. Non, mais il y a une écœurantite ouais. aussi. Je pense que les gens sont écœurés ouais. de cette espèce de climat ouais. délétère, là.
Ça fait ramasser de tous les bords, tous les côtés.
Exact.
Aussi.
Ouais.
Ouais. Ouais. Puis pensez-vous que le fait que Trump ait déclaré les Antifa comme entités terroristes, ça a peut-être réveillé du monde aussi ici?
Ben, moi, je trouve ça intéressant parce que, quand même, plusieurs des personnes qui nous contactent pour rejoindre le Front Pop, c'est beaucoup des gens qui, dans les premières questions, tu sais, quand on leur parle, les premières choses qu'ils vont nous dire, c'est souvent la peur ou des craintes, en fait, qu'ils n'avaient pas eues avant. Et que là, dans la dernière année, là, il y a comme...
Quelque chose qui s'est exacerbé. Ben,
exactement, hein? Et ça s'accélère, tu sais, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis, mais ensuite les discours, admettons... poilièvre et pas à négliger. Là. Mm.
Il y a une grosse montée des discours transphobes aussi.
Exactement.
Là, ici, au Canada.
Donc, tu sais, déjà avoir des gens visiblement qui sont comme, hey, là, il faut que je fasse quelque chose. Puis tu sais, dans un avenir plus ou moins rapproché, ben je mettrai pas toutes mes billes dans ce sac-là, mais tu sais, le mouvement syndical, admettons, organise une grosse manif le 29 novembre, ils appellent une manif nationale sur comme trois thèmes là, par rapport pour dénoncer les attaques contre les travailleurs-travailleuses, dénoncer la montée de la droite et les coupures dans le filet social et les attaques contre l'environnement, pour dire ça plus largement. Puis tu sais, voir des syndicats qui commencent à parler de vouloir déclencher des grèves illégales, tu sais, vouloir, admettons, affronter le projet de loi 14 qui va entrer en vigueur dans les faits le 30 novembre.
Le 30 novembre, hein? Finalement.
Ouais, oui, c'est ça, finalement. Espérons peut-être certaines convergences. Puis en tout cas, tu sais, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même... il y a une volonté, ou du moins, on a un contexte qui serait intéressant où est-ce qu'on pourrait créer des alliances ou converger.
Ben, tu sais, en parlant d'alliances aussi... on peut voir là, qu'il y a beaucoup le vent dans les voiles en ce moment, le mouvement indépendantiste, qui est beaucoup l'idée par une frange jeunesse en ce moment, qu'ils ont récemment en bloc refusé la présence de nouvelles alliances, des groupes identitaires dans leur mouvement. On sent qu'il y a un intérêt, on va comme l'antifascisme, le combat contre l'extrême droite, dans des lieux ou des groupes où est-ce que c'était pas le cas. Ça a pas toujours été le cas.
Mais ça a déjà été le cas il y a très longtemps.
Plus récemment. Il y a des liens qui n'existaient pas, qui sont pas en train de se créer.
Ça commence à se faire.
Ouais, fait que c'est...
Le PQ n'a pas eu de mémoire encore, hein, c'est sûr.
Non, ça s'est pas rendu encore.
Ça se rendra peut-être pas.
Non, je pense que ça tombe dans leur pourriel, malheureusement.
Ouais, c'est ça. On va terminer malheureusement là-dessus. Donc, la manif, c'est le 23 novembre à 14h au Square Philippe à Montréal.
Exactement.
Vous avez une page Facebook.
Page Instagram.
Pas de site Internet pour l'instant.
Pas pour l'instant, ça s'en vient.
OK, parfait. Puis, avez-vous d'autres informations pertinentes qu'on pourrait savoir par rapport à votre organisation?
Ben, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions, si vous avez envie de vous impliquer. Puis sinon, ben, rejoignez-nous le 23 dans la rue et on se représente le 29 également avec le mouvement syndical.
Un contingent, ouais. Puis il y aura d'autres choses dans les prochains mois.
Exactement.
Ouais, suivez nos réseaux, on va annoncer les prochains événements à venir.
Parfait, on va espérer qu'il y a des choses en région aussi peut-être éventuellement.
Ben, le Front Pop demeure quand même un groupe, c'est pas montréalais.
C'est pas montréalais? Non. OK. Donc il y aura peut-être des activités en région aussi
éventuellement. Absolument.
Parfait, donc Manu, Raphaël, merci beaucoup d'être passé à l'émission.
Merci beaucoup de l'invitation.
On se voit à la manif, puis à une prochaine. On va aller en musique avec Mehdi, Napti et Prototype. We'll be right back. toujours aux Apatrides de Anonymes. Donc, c'était Mehdi Napti et son projet prototype, la pièce Neptune de l'album Mix Mode, sorti en août dernier. Quatre soirs de Montréal de jazz, vous avez bien entendu, donc dirigé par Mehdi Napti, originaire de France, au sax, composition et arrangement, avec Philippe Bernier à la guitare, Nicolas Lafortune à la basse et Bertil Schlourab à la batterie. On a eu l'occasion d'y voir en Sextuor, Marie-Ève et moi, avec son projet Continuum à la Salle Bourgie il y a quelques semaines. Donc voilà, fait que je vais passer la parole pour la première fois ce soir à Simon.
Ben, on s'est dit quand même bonjour en début
c'est
d'émission.
C'est vrai, bon,
mais
rebonjour.
Un beau bonjour. Allô.
Donc plusieurs nouvelles d'Afrique subsaharienne.
On t'écoute.
Toutes dans le Sahel, donc Mali. Et Soudan-Tchad, qui est un peu le même dossier, Soudan et Tchad.
Oui.
On commence avec le Mali, qui vit actuellement une situation de crise assez particulière. On sait qu'il y a un gouvernement militaire non élu depuis plus de 5 ans déjà. Il a de la difficulté en temps normal à assurer les besoins de base. Mais il y a une donne supplémentaire qui vient compliquer sérieusement la situation. C'est la montée en puissance du groupe djihadiste Jenin, affilié à Al-Qaïda, et qui a décrété il y a quelques semaines un embargo énergétique sur tout le sud et l'ouest du pays, où se trouve la vaste majorité de la population malienne. Ce sont les régions fertiles du pays. Et ce, au nom de l'implantation de la charia. Donc, les femmes non voilées sont fouettées en public. Là, on est déjà rendu là. Il y a aussi de plus en plus de cas de kidnapping avec demande de rançon. L'électricité au Mali est principalement produite avec des génératrices et des groupes électrogènes alimentés aux combustibles fossiles, dont les convois de camions-citernes sont attaqués, détournés et parfois incendiés pour produire des vidéos de propagande spectaculaires.
Oui.
Ça commence à poser de sérieux problèmes de santé, de sécurité, de communication, d'alimentation même. Je parle de nourriture.
Oui.
Plusieurs grandes villes sont sur le point de rupture. C'est le cas de la ville de Mopti, 460 000 habitants, qui est en blackout total depuis le 7 octobre. Il y a un seul hôpital qui arrive encore à faire fonctionner partiellement un dernier bloc opératoire et quelques frigos grâce à des panneaux solaires sur le toit. Dans la ville, tout le reste des services, des commerces, des transports, tout est pratiquement à l'arrêt complet. Fuir à pied n'est pas vraiment possible. Les distances au Mali sont très grandes. Le climat est très aride. Les rares autocars qui circulent encore, le prix des billets a flambé. Ils sont souvent contrôlés par les djihadistes eux-mêmes. Pour l'instant, la seule réponse du gouvernement intérimaire à cette attaque du Jenin contre des millions de Maliens, ça a été de demander à la population de ne pas céder à la panique. Mais dans un climat aussi tendu, la famine et la guerre civile guettent, d'autant plus que les effets de ce blocus commencent aussi à se faire ressentir dans les plus grandes villes du sud du pays, dont Ségou ou Bamako, où le marché noir s'en met plein les poches actuellement. Les gens font des stocks et on commence aussi à constater des pénuries, à voir la population civile à ramasser carburant, denrées, d'autres biens de première nécessité. Situation donc extrêmement critique au Mali. Tout ça sans que ça ne fasse l'objet même de petites brèves dans nos grands médias occidentaux actuellement. Donc c'est vraiment très rare qu'on en entende parler.
À peu près pas, ouais, t'as raison, ouais.
On reste dans le désert, on quitte l'Afrique de l'Ouest, mais on va plus à l'est, à la frontière entre le Soudan et le Tchad. Autre situation qui passe de moins en moins inaperçue. Cette semaine, on a entendu plus parler
C'est terrible, qu'est-ce qui se passe. C'est complètement fou. Là.
Ben, c'est considéré comme la pire crise humanitaire, pire que Yémen, pire que Gaza.
Au monde actuellement.
Et ça dure depuis quelques années quand même.
Oui, 3 ans.
Médecins sans frontières qualifie la situation de terrifiante et apocalyptique. Donc, pour utiliser des mots comme ça, il faut... Je pense pas en général, sont assez mesurés dans leurs critiques, mais bref. Des groupes rebelles qui sont pas nécessairement associés au djihadisme dans ce cas-ci, mais qui se battent pour la mainmise sur le territoire. Je parle des paramilitaires des Forces de soutien rapide, FSR, donc je répéterai pas Forces de soutien rapide à chaque fois. Les FSR de Mohamed Daglo, qui après 18 mois de siège, ont finalement pris El Fasher, la dernière grande ville de l'ouest du pays, dans le Darfour.
Ouais.
Peu d'informations nous arrivent de la région où les ONG et les journalistes sont de moins en moins présents. Mais les quelques témoignages qui nous parviennent, croisés aux vidéos publiées par les assaillants eux-mêmes et aux analyses d'images satellites de la ville, qui ne montrent actuellement aucun mouvement à grande échelle, permettent de croire que la majorité de la population est soit morte, capturée ou cachée. Et toujours selon Médecins sans frontières, qu'un grand nombre de survivants des récentes attaques qui s'y trouveraient toujours sont en grave danger de mort et que les habitants de la ville sont probablement empêchés par les paramilitaires de fuir pour des zones plus sûres. Une certaine partie des civils qui ont réussi à quitter El Fasher auraient été soit tués pendant la fuite ou capturés par les FSR, qui exigent maintenant des rançons pour leur libération. Difficile d'estimer la proportion des 260 000 résidents de la ville qui ont été tués ou capturés pendant et après les attaques. Très peu d'entre eux et elles ont réussi à atteindre Tawila, la première ville dite sécuritaire qui soit atteignable à partir de là, même si elle est située à 70 km de distance dans le désert.
Mm-hmm.
Donc, c'est un chapitre sanglant de plus dans cette guerre et la situation dans cette région soudanaise du Darfour est continue d'être considérée comme, je le disais, la pire crise humanitaire de la planète et avec ses récents développements, dont une reprise cette semaine des violences vers le centre du pays. On voit vraiment pas d'apaisement possible à court terme, surtout que les négociations en vue d'une trêve sont au point mort actuellement, malgré le ton de plus en plus pressant d'Antonio Guterres, qui exhorte les partis à retourner à la table de négociation, où participent aussi les États-Unis, l'Égypte et les Émirats arabes unis.
Ah oui?
Oui. Les États-Unis, je sais pas s'ils vont réussir à régler une 10e guerre en 3 semaines.
Ah, il est très bon, Trump, qui est capable.
Il est capable. Go Nobel de la paix. Et qui finance les FSR? C'est quelqu'un qui est à la table de négociation.
Les Émirats arabes unis.
C'est le nom qui ressort le plus souvent dans les rapports des différentes ONG et organisations internationales. Les Émirats arabes unis, qu'on connaît beaucoup pour leur sports washing ou blanchiment par le sport depuis des années, notamment avec l'équipe du champion du monde cycliste Tadej Pogacar, Team Emirates, qui pourrait éventuellement faire l'objet d'une campagne de boycott semblable à celle qui visait Israel Premier Tech.
Mm-hmm.
Le Canada n'est pas en reste non plus. Il y a une enquête de la CBC qui révélait la semaine dernière la présence assez marquée d'armes canadiennes entre les mains des paramilitaires. Il y a donc plusieurs organisations qui demandent au gouvernement Carney de cesser immédiatement toute livraison d'armes aux Émirats arabes unis, qui sert de relais.
L'intermédiaire, oui.
C'est ça. Directement à l'ouest du Darfour, c'est le Tchad où se trouvent des centaines de milliers de réfugiés soudanais, la plupart fuyant les violences au Darfour dont je viens de parler, des camps de réfugiés à perte de vue. Le plus grand en abrite presque 250 000. La vie est évidemment très difficile, mais de ce côté-là de la frontière, on est épargné de la violence des groupes paramilitaires, mais ce qui guette, c'est la sécheresse et les pénuries actuellement et les maladies qui viennent avec. La situation est critique. Les dizaines de milliers de réfugiés arrivés dans les dernières semaines dorment dans des abris de fortune qui les exposent aux tempêtes de sable, aux morsures de serpents et d'insectes, au froid la nuit. Les ONG sur place sont en pénurie de matériel, tentes, matelas, sacs de couchage, etc. Donc, les quelques rations insuffisantes d'eau et de nourriture qui sont distribuées aux réfugiés sont souvent revendues pour qu'ensuite ils puissent pouvoir se procurer des biens de base.
Mm-hmm.
Sur le terrain, on évoque les récentes coupes sauvages dans l'aide internationale de la part des États-Unis, du Canada et d'une grande partie des pays donateurs qui ont transféré ces sommes dans le secteur militaire, amputant les budgets du HCR de plus de 40 %. Normalement, dans les camps de réfugiés, la norme est de distribuer 15 litres d'eau par personne par jour, mais la pénurie fait en sorte qu'on en distribue seulement le tiers actuellement. Les enfants marchent des kilomètres dans le désert avec des ânes pour aller chercher de l'eau, exposant les fillettes aux agressions sexuelles, mm-hmm. entre autres périls.
Ouais, ouais.
Bref, situation catastrophique dans cette région désertique qui accueille déjà des centaines de milliers de réfugiés de guerre, et tant que les budgets occidentaux de l'aide internationale ne seront pas restaurés, ça va continuer de se dégrader, surtout que les violences ne semblent pas non plus sur le point de se résorber dans les régions voisines. Donc, les réfugiés vont continuer d'affluer en grand nombre
du Soudan vers le Tchad. Ouais.
Exactement.
Puis, beaucoup disent que les deux chefs de guerre, là, le chef des FSR puis le chef de l'armée régulière soudanaise, c'est deux psychopathes carrément, là, qui sont prêts à tout faire là, donc, pour détruire leur pays puis leur population.
Oui, la violence est pas nécessairement un mal nécessaire pour l'atteinte de leurs objectifs, mais une jouissance.
Oui, ben c'est des fous furieux. Là. Fait que, merci, Simon. Marie-Ève s'en vient dans quelques instants pour les actualités britanniques. Donc, on change de continent, on reste dans les actualités actuelles, récentes, mais on va du côté du Royaume-Uni, Marie-Ève.
Oui, c'est ça, je voulais prendre le temps de revenir aujourd'hui sur l'accord franco-britannique d'échange de migrants dont on a un peu parlé au moment de son annonce là en juillet,
ah oui.
mais pour lequel on n'a pas vraiment fait suivi depuis son entrée en vigueur le 6 août. Pour rappel, il s'agit d'un projet pilote qui prévoit le renvoi en France de migrants arrivés au Royaume-Uni à bord de small boats en échange de l'accueil par Londres de migrants se trouvant en France.
Ah,
donc,
ouais,
c'est
ouais.
l'équivalent d'un, du principe du un pour un. Là.
On déplace les gens comme ça. Ouais.
Exact. Donc, les expulsions ont commencé en septembre. Puis, cette semaine, en date du 10 novembre, j'ai vérifié les chiffres. Il y avait eu 94 exilés qui ont été renvoyés en France en échange de 65 demandeurs d'asile amenés au Royaume-Uni. Mais là, le nouveau dispositif peine déjà à montrer son efficacité. Il y a déjà deux migrants qui avaient été expulsés en France dans le cadre de l'accord qui ont été réinterceptés alors qu'ils retraversaient la Manche en bateau.
Okay.
Et donc ont été une deuxième fois renvoyés en France. Et bon, ben considérant le nombre très élevé de personnes là, qui tentent la traversée, le risque que ces cas-là ne soient pas les seuls puis que les personnes soient pas nécessairement interceptées aussi, ben le risque est quand même pas mal élevé. Bref, à l'image du principe de la double peine, ce qu'on voit ici, c'est un peu un double risque, hein, parce que elle risque de leur vie à chaque tentative.
Ouais, ouais, à chaque traversée.
Et puis quand la ministre de l'Intérieur britannique, Shabana Mahmoud, affirme que, et je cite, toute personne cherchant à venir au Royaume-Uni, à revenir, pardon, au Royaume-Uni après avoir été expulsée dans le cadre de l'accord perd son temps et son argent, fermez les guillemets, ben ça montre qu'elle comprend rien. Les migrants ont justement plus rien à perdre, car comme l'a confié au Guardian, un des deux migrants en question qui a été intercepté, qui lui se dit victime d'un réseau de traite d'êtres humains géré par des passeurs dans le nord de la France, donc je le cite, si j'avais pensé que la France était un endroit sûr pour moi, je ne serais jamais venu au Royaume-Uni.
Ben oui.
C'est simple, mais il y en a qui comprennent pas ça.
Non.
Et donc, il serait pas le seul dans sa situation. Parmi 12 personnes renvoyées en France, mais dans le cadre de l'accord et que le réseau Humans for Rights a rencontré, il y a 4 hommes, dont 2 qui ont également subi des actes de torture, qui ont signalé des cas d'esclavage moderne qu'ils ont subi eux-mêmes là, en Libye, en Éthiopie, au Yémen. Selon les témoignages reconnus, aucun soin médical est offert, alors que certaines de ces personnes-là ont justement subi de graves atteintes à leur santé mentale puis des violences physiques. Il y a le réseau Humans for Rights a aussi identifié au moins 3 cas de personnes ayant des liens familiaux au Royaume-Uni puis qui ont été expulsées vers la France, alors que les liens familiaux sont un argument censé peser très lourd dans la balance lors de la sélection des exilés concernés par l'accord. Aucune information sur la procédure d'asile ne leur a été fournie. Puis, quand c'était le cas, on leur a donné des informations limitées, seulement disponibles en français ou en anglais et sans accès à un interprète. Bref, plusieurs exilés comprennent même pas ce qui leur arrive, alors que les procédures, de un, sont pas simples, puis de deux, ont des conséquences très graves. Je vous explique, une fois expulsés en France, la première chose qui leur est proposée, ben, c'est l'aide au retour, que je mets toujours entre guillemets,
retour
volontaire.
Parmi le pays d'origine, là.
Oui, c'est ça, oui. Au retour volontaire. Ceux qui refusent et qui peuvent pas déposer de demande d'asile, ben font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Là, ils ont 30 jours pour partir par eux-mêmes. Sinon, ils risquent un placement en centre de rétention en vue d'un retour forcé. Et s'ils tombent sous le règlement Dublin, ben là, ils vont être expulsés vers le pays par lequel ils sont entrés dans l'Union européenne, comme l'Espagne ou le Portugal, par exemple. Ou, comme le rappelle Humans for Rights, ben ils ont souvent subi des violences. Dans son rapport, l'association dit être très préoccupée par le sort de ces personnes-là, parce qu'elles sont déplacées de lieu en lieu, laissées sans accès à l'information, comme je le disais, ou encore à une assistance juridique, puis comme on l'a vu, sans aucun accès à la sécurité. Des préoccupations que partagent d'ailleurs d'autres ONG, au point où, à la mi-octobre, 16 d'entre elles ont demandé au Conseil d'État français de suspendre et d'annuler l'accord. Les associations dont Médecins du Monde, Utopia 56 et l'Auberge des migrants dénoncent un partenariat, je cite, « de la honte » qui s'apparente à un dispositif de marchandage et qui est entaché d'illégalité et qui ne respecte pas le procédé prévu par la Constitution. Concernant la Constitution, leur avocat explique qu'il n'y a pas eu de débat démocratique sur le contenu de l'accord et que ben ça contrevient à l'article 53 qui stipule que ce genre d'entente-là doit avant tout être soumis à la ratification du Parlement. Les associations dénoncent aussi le fait que les exilés qu'elles rencontrent à la frontière sont pas considérés ni traités comme de potentielles personnes pouvant bénéficier de la protection internationale ou du statut de réfugié. Elles sont plutôt considérées comme des quasi-criminels.
Ben oui.
Et donc, elles risquent en plus d'être enfermées dans l'attente de leur envoi vers la France parce que l'accord bilatéral prévoit leur mise en détention dans les 3 jours qui suivent leur arrivée. Et les autorités britanniques ont ensuite 14 jours pour les renvoyer vers la France. L'auberge des migrants qui intervient sur le terrain là, à Calais et dans le nord de la France auprès des personnes exilées bloquées à la frontière franco-britannique dénonce aussi une logique purement comptable qui réduit les personnes à des unités interchangeables et qui transforme le droit d'asile en loterie. Je cite Stella Bosque, responsable des communications à l'auberge des migrants. On est dans une logique quasiment de troc, dont la matière est l'humain. C'est une vie contre une autre. Et quelques chiffres. Ce qu'on voit en fait aussi, c'est que malgré la répression, malgré la fermeture des frontières, ben ça marche pas. Il y a toujours plus d'exilés qui arrivent là pour l'année 2025. Depuis le début de l'année, il y a plus de 39 000 exilés qui sont arrivés en bateau au Royaume-Uni, selon les données du Home Office. Donc là, on dépasse déjà les chiffres enregistrés pour toute l'année 2024, qui étaient de 37 000.
Oui.
Bon, là, pour l'instant, on est encore en deçà là, du record qui avait été enregistré en 2022, qui était presque 46 000. Mais là, l'année n'est pas encore finie, puis le bilan donc de l'année en cours là, risque d'être encore plus... risque de se rapprocher là, du 46 000. Là.
Ben oui, ça va bien au Royaume-Uni. Hein. Ils viennent de signer un accord avec le Vietnam aussi pour
rapatrier. En plus, ouais, c'est ça. J'aurais pu continuer sur le Royaume-Uni, mais parce que je trouvais que... Il n'y a pas tant d'informations justement qui ont été données là,
sur
cet accord-là puis les conséquences concrètes là, sur les personnes.
Vive les travaillistes! Donc, on y va avec une deuxième pièce, le duo Puce de la pièce La faute de la boîte. Duo montréalais de punk rock'n'roll qui s'appelle Pust ou Post P-U-S-T, la pièce La faute de la boîte de leur premier EP éponyme sorti en juin dernier. Pour les intéressés en dehors de Montréal, ils seront à Québec le 14 novembre avec Saint-Martyr, ça c'est demain, et à Sherbrooke le 28 novembre avec Pai Pai. Donc Marie-Ève, t'es toujours là. Pardon?
Ça promet.
Ça promet. T'es toujours devant moi. On revient ici dans
nos
marécages nauséabonds provinciaux, justement, dans la capitale provinciale.
Qui est très nauséabonde aussi. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'un de mes sujets de prédilection, la police. on le savait déjà, mais un nouveau rapport conjoint de la Ligue des droits et libertés et de l'Observatoire des profilages vient confirmer encore une fois le profilage racial de la part de la police de Québec. Bon, c'est sûr que le rapport se base sur juste 20 entretiens réalisés entre 2022-2023, donc on peut pas vraiment s'en servir là, pour généraliser les résultats, pardon. La Ligue des droits et libertés a choisi de faire un rapport qualitatif, faute d'avoir des données suffisantes et les ressources nécessaires là, ouais. pour réaliser une grande enquête statistique quantitative, mais selon elle, les répétitions dans les entrevues étaient telles qu'un échantillon plus grand aurait, dans le fond, pas changé grand-chose aux résultats. Donc, avant de parler des résultats, justement, je précise que 17 des 20 personnes interviewées s'identifient comme noires, 2 comme latino-américaines, 1 comme arabe et que 14 d'entre elles ne sont pas nées au Québec. Et donc, okay. qu'est-ce que dit le rapport? D'abord, 17 des 20 personnes disent avoir été victimes directes de profilage racial. Une, la victime collatérale et les deux autres qu'elles en ont été témoins. Ensuite, toutes ont déjà été interpellées par le SPVQ.
Et, ah oui?
Ouais. Et 8 d'entre elles affirment l'avoir été plus de 10 fois dans leur vie,
aïe, aïe.
Dont 2 à plus de 40 reprises. Ah, enfin, la moitié ont dit avoir été détenus à la suite d'une de leurs interpellations là, ou interceptions. Sur le plan qualitatif,
ouais.
la plupart des interventions des policiers étaient en lien avec l'application du Code de la sécurité routière
ouais, ouais.
ou encore de règlements municipaux.
Ouais.
Ensuite, bon ben les événements et les incidents racontés lors des entretiens démontrent un traitement différentiel de la part des agents du SPVQ, un traitement qui, je cite le rapport, se traduit par des attitudes hostiles, des comportements irrespectueux, des questions intrusives et, dans plusieurs cas, l'usage injustifié de la force ou de la détention. L'étude met aussi en lumière les conséquences du profilage racial, perte de confiance envers les institutions et les mécanismes de plainte, sentiment d'injustice et stratégie d'évitement, évidemment, des forces policières, des conséquences
de peur, assez... de crainte, évidemment.
Exact.
Ben oui.
Et enfin, les personnes rencontrées identifient clairement l'augmentation du profilage racial suite à l'affaire Wolfpack et ah. l'enquête Scorpion, des interventions répétées et ciblées qui ont particulièrement là, affecté la scène hip-hop de Québec.
Mm-hmm.
À la lumière de ces résultats-là, sans surprise, l'Observatoire sur le profilage racial demande aux élus et aux autorités de reconnaître qu'il y a du profilage racial sur le territoire de la ville à Québec, mais aussi que les règlements municipaux soient révisés. Par exemple, ceux qui pénalisent les incivilités là, pourraient être abolis, ce qui ferait en sorte que plusieurs agents auraient même plus de motifs là, tu sais, pour intervenir dans l'espace ouais. public. Je disais que la Ligue a manqué de données pour réaliser une enquête plus statistique. C'est que les données que compile la Ville de Québec sur l'ethnicité des personnes interpellées ou interceptées sont toujours pas publiques et appartiennent au ministère de la Sécurité publique. Donc,
okay.
selon la Ligue, c'est impossible à cause de ça d'avoir un portrait là, global de la situation. Et donc, c'est pourquoi elle demande à la Ville de Québec de commander un rapport scientifique quantitatif et indépendant sur le profilage racial, un peu là, comme l'a fait la Ville de Montréal en 2019.
Oui, exactement.
Donc, si vous voulez aller lire le rapport, il est disponible sur le site de la Ligue des droits et libertés. Il s'intitule simplement « Profilage racial à Québec ». Donc, il est très facile à trouver.
Parfait. Ben merci beaucoup, Marie-Ève. On va aller lire ça plus en détail. Donc, quelques notes de musique et on revient avec Simon et les actualités autochtones. Toujours aux Apatrides Anonymes, Simon, on reste au Québec-Canada avec les actualités autochtones.
Oui, plusieurs nouvelles brèves pour vous. Je commence avec une bonne nouvelle pour certains, demi-victoire pour d'autres. Corey Jacko, Molly Wickham et Shailene Samson, trois environnementalistes Wet'suwet'en ou Mohawk, dépendamment, qui avaient bloqué les travaux du gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique, ne retourneront pas en prison, c'est ce qui ressort des audiences de détermination de la peine suite au jugement initial de culpabilité, audiences qui ont eu lieu à la fin d'octobre. Il y a quand même une peine de 150 heures de travaux communautaires qui est imposée aux trois militants et militantes, mais plusieurs s'attendaient à ce que le juge suive les recommandations de la Couronne en imposant des peines de prison en plus du temps déjà purgé. Ce qu'on remarque du jugement, c'est qu'il tient compte des comportements et propos orduriers des agents de la GRC qui ont procédé aux arrestations et qu'il mentionne aussi le contexte colonial particulier entourant les Wet'suwet'en, ce qui a probablement joué dans le fait de ne pas renvoyer les trois défenseurs du territoire en prison.
Ouais.
Autre brève bien coloniale, elle aussi, le Centre d'art autochtone, qui est en fait la collection officielle d'œuvres d'art autochtone du gouvernement fédéral, et qui est physiquement situé à Gatineau, a perdu la trace de 132 œuvres. Je rappelle que sa mission première, c'est la conservation de ces quelques 5000 œuvres d'art qui proviennent de toutes les nations à travers le territoire canadien. Mais rassurez-vous, le rapport qui nous apprend cette perte indique que, j'ouvre les guillemets, le dernier emplacement de ces œuvres est connu, mais on n'arrive pas à les trouver. Le rapport, par contre, n'indique pas quelles œuvres ont été perdues. La raison la plus souvent évoquée pour expliquer ces cafouillages, c'est les déplacements d'œuvres qu'on prête à des bureaux régionaux pour les exposer dans les lobbies.
Dans les bureaux, là.
Dans les bureaux, et que ces œuvres ne reviennent finalement jamais, puisque le suivi sur le retour des œuvres dans la collection, il ne se fait pas.
Okay.
Donc, un gros bravo au ministère des Relations Couronne autochtone pour l'excellente gestion de sa collection d'œuvres qu'il décrit lui-même comme étant d'une grande importance culturelle.
Et c'est cela, oui.
Les grands archivistes, oui, c'est ça, oui.
Donc, je continue dans l'absurde et l'insolite avec la Constitution du Québec.
Oh.
Ce joli lapin blanc sorti du chapeau melon de Simon...
Oh. Rollin
Barrette, donc abracadabra.
C'est plus un lapin brun.
brun et blanc.
Il est-tu plus vanille ou en tout cas bref? Bon, tout le monde s'entend pour dire que ce projet de constitution qui nous vient d'un gouvernement usé à la corde, au plus bas dans les sondages, peu avant des élections qui risquent de signifier sa disparition, écrite derrière des portes closes sans réelle consultation. Bref, il y a unanimité sur l'aspect complètement illégitime de cette proposition de la CAQ. Et il y a beaucoup de textes sur le sujet. Par exemple, dans Pivot.Québec, il y a une chronique signée Judith Lefebvre qui porte le titre « De la patente illibérale de Simon Rollin Barrette à une constitution populaire ». Il y en a une autre écrite par Francis Hébert Bernier. Le titre est « Une nouvelle constitution québécoise qui menote les droits et libertés ». Donc, ce sont des lectures que je recommande.
Tout à fait.
Pour des points de vue plus spécifiquement autochtones, deux textes à lire. Tout d'abord, une constitution pour le Québec, l'affront de trop, dans Espace autochtone, par Nadir André, avocat spécialisé en droit autochtone, expert en, en revendication territoriale, qu'on a déjà reçu ici à l'émission et qui est un bonhomme fort sympathique et intéressant. Il y a aussi un article de la presse canadienne dont le titre est « Constitution du Québec, aucune consultation réelle dénonce les Premières Nations ». Ces deux textes-là s'entrecoupent un peu et déconstruisent complètement les prétentions de Jolin Barrette qui affirme avoir consulté, dit-il, différentes nations autochtones et qu'il aurait eu des contacts avec l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, celle-ci affirmant ensuite... Sans en dire plus...
Moi, je pense que c'est juste par la pensée.
C'est cela. L'APN, donc l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, qui affirme, suite aux affirmations de Jolin Barrette, qu'il n'y a eu aucune consultation réelle et qu'elle n'est qu'une instance qui réunit les chefs des Premières Nations, mais elle ne se substitue pas au gouvernement de chacune de ces communautés. Donc, pour agir conformément au statut, il aurait fallu consulter individuellement les 11 nations du Québec avant d'imposer cette super loi qui mentionne à peine la présence et les droits autochtones et qui risque d'entrer en conflit avec des ententes déjà existantes avec le provincial ou des traités historiques signés avec le fédéral ou encore avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Oui.
Pour les considérations, justement, plus historiques, je vous réfère à nouveau au texte de Nadir André qui revient sur plusieurs dates clés dans l'évolution des relations Premières Nations avec les différents paliers de gouvernement, provinciaux et fédéral, et à quel point ce projet bâclé de constitution ignore pour l'essentiel ces considérations pourtant incontournables. Jolin Barrette renvoie tous les insatisfaits, donc finalement tout le monde, sauf les caquistes, aux consultations organisées lors des travaux parlementaires à venir, qui risque de n'être qu'un exercice de relations publiques si on se fie à comment les choses se sont produites jusqu'à maintenant. Dernière mention de Maître André, que je trouvais importante, l'adoption d'une constitution, normalement, c'est un exercice sérieux, complexe, mais qui peut aussi être une occasion de rapprochement, d'ouverture, quand c'est fait correctement. Il dénonce donc une occasion manquée dans le cadre de la réconciliation qu'on essaie de concrétiser depuis des années. Mais les 11 nations autour de la table pour mettre, les 11 nations autour de la table pour l'élaboration d'un texte si important, ça aurait pu être une super opportunité d'écoute et de reconnaissance, mais voilà, faut pas trop en demander à ce gouvernement. Je termine très rapidement ce segment d'actualité autochtone avec d'autres suggestions de lecture. Trois grands dossiers dans Espace autochtone de Radio-Canada. Deux des dossiers portent sur le Tuna'a, une langue autochtone qu'on tente de garder vivante en Colombie-Britannique. Je vous donne simplement les titres. Quand transmettre sa langue devient un acte de résistance. L'autre dossier, parler pour exister, des cours sur, de langue pour raviver une identité. Et le troisième dossier que je recommande n'est pas lié à une nation particulière, il porte le titre suivant. Lire du bout des doigts, le lent développement du braille pour les Autochtones.
Oui, oui, intéressant.
Donc, vraiment intéressant.
Oui, oui. Voilà. Ben, merci Simon. Je commence avec une journée de discussion et d'études qui s'appelle « Quand tout va à droite, quelles sont les réponses du communautaire? » C'est le 18 novembre au CEDA à Montréal. Je cite l'appel. « Pour toute une journée, nous prendrons du recul dans le contexte actuel tout en jetant un regard sur notre passé pour s'inspirer et continuer à lutter. » Entre autres avec un panel fort intéressant avec Annie Savage du RAPSIM, Magali Boudon du Conseil LGBT et Manuel Salamanca du CTI qu'on avait reçu à l'émission il y a quelques mois. Donc c'est organisé par le Centre d'information populaire et Riposte qui font des capsules vidéo sur l'histoire du communautaire. Donc ça se passe, c'est ouvert à tout le monde le 18 novembre, donc au CEDA. Regardez ça sur Internet. Sinon, ben dernière projection de la série de documentaires et discussions « Les droits humains à l'affiche » présentée par la Ligue des droits et libertés à l'ONF. Celui-ci, le titre, c'est « Génocide des droits pénal international ». C'est le 19 novembre à 19h. C'est gratuit, mais inscription requise en ligne. Le documentaire « Les 18 fugitives » de 2014. Pour le panel, il y aura donc Bruce Bromhall, professeur au département des sciences juridiques de l'UQAM, Fabienne Présenté des Voix juives indépendantes, mm-hmm. et c'est animé par Paul-Étienne Rainville de la Ligue. Petit extrait du documentaire, de la description du documentaire, avec humour et passion, les 18 fugitives restituent l'esprit de 1987 à travers les yeux de ceux qui l'ont vécu et met en lumière l'un des chapitres les plus étranges du conflit israélo-palestinien. Les 18 fugitives, c'est des vaches qui étaient des vaches clandestines qui étaient utilisées pour avoir du lait au lieu de l'acheter aux commerçants israéliens par les Palestiniens en Cisjordanie. Donc, c'est ligue-des-droits.ca pour toute info. Donc, ça vous tente ce documentaire-là. Moi, je vais y être. Sinon, réflexion transnationale sur la criminalisation des migrants-migrantes organisée par le Centre international de solidarité ouvrière, le CEDAL, Développement et paix, et le SLAM, le syndicat des locataires autonomes de Montréal. C'est le 20 novembre à l'Association des travailleurs grecs du Québec sur l'avenue du Parc à Montréal. Ce panel donnera la parole à des acteurs actrices engagés sur différents fronts, tant au Québec, aux États-Unis qu'au Mexique, afin de réfléchir ensemble aux stratégies de lutte, aux mobilisations et aux solidarités qui se développent à l'échelle internationale. C'est dans le cadre des journées québécoises de la solidarité internationale qui se passe en ce moment, avec plein d'activités partout au Québec. C'est jqsi.qc.ca. Un autre événement un peu plus universitaire, l'Observatoire des profilages vous invite à ce webinaire dans la foulée du lancement du livre « Racisme, genre et discrimination, de l'approche intersectionnelle vers les médiations culturelles » aux éditions L'Harmattan. C'est le 26 novembre, dès 11h30, c'est en ligne. Un panel avec les co-directrices de l'ouvrage, plusieurs professeurs donc en sociaux, en travail social, à l'UQAM, à l'Université de Sherbrooke, et une enseignante d'Argentine. Je lis un extrait de la description. Les co-coordinatrices de cet ouvrage sont engagées depuis plusieurs années dans une démarche interculturelle, critique et intersectionnelle, féministe et antiraciste, transnationale et interdisciplinaire, narrative et porteuse d'action. C'est du sérieux. Donc, c'est en ligne donc le 26 novembre.
Tu l'as dit, c'est universitaire.
Oui, c'est un peu académique, mais ça a l'air fort intéressant quand même. Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Comité pour les droits humains en Amérique latine co-organise un atelier artiviste, intersectionnel et participatif qui porte sur les droits des femmes et les violences sexistes et de genre. Ça se passe donc le 27 novembre à 17h à la salle des Broiseries, ici à l'UQAM. Il va y avoir projection de courts-métrages féministes aussi. Et c'est co-présenté par le Comité Amérique latine de l'UQAM. Sinon, terminer mon agenda avec les RIDM. C'est du 20 au 30 novembre, donc rencontre internationale du documentaire de Montréal. Le film d'ouverture, c'est Letters from Wall Street. Et c'est un cinéaste indien qui va habiter en Pologne et observe un petit peu les enjeux de cohabitation entre les immigrants, entre les citoyens des différentes classes sociales. Ça a l'air vraiment d'un beau film d'ouverture. Donc, Letters from Wall Street, ça se passe à Varsovie. Et le RIDM, on vous en reparle dans deux semaines parce qu'il va y avoir aussi une autre partie dont on pourra vous parler. Voilà. On va tranquillement terminer cette magnifique émission des Apatrides Anonymes du 13 novembre, pardon, 2025. On avait des invités en début d'émission, deux porte-parole du Front antifasciste populaire. Je voulais justement vous dire qu'il y a un nouveau balado depuis quelques semaines sur pivot.québec qui s'appelle « Le bruit des bottes », qui parle entre autres des enjeux d'extrême droite et de fascisme. Donc, il y a déjà 7 épisodes en balado. Donc,
et qui est produit par...
Par Pivot. Par Pivot, exactement. Sinon, avant de passer à la dernière pièce, Marie-Ève, tu avais une citation que tu n'avais pas pu dire dans ton blog sur la France et la Grande-Bretagne.
Oui, sur l'accord d'échange de migrants. Là, c'est une citation de Stella Bosque de l'Auberge des migrants que je trouve qui est vraiment coup de poing. Ça va comme suit. Il n'y a pas de réelle volonté des gouvernements de gérer cette question migratoire car elle leur sert de bouc émissaire. On donne l'impression aux citoyens que les migrants coûtent de l'argent à l'État, qu'ils prennent les aides sociales, etc. C'est une théâtralisation de l'autorité pour rassurer l'opinion publique. On met un problème qu'on a soi-même construit à l'agenda politique pour garder le contrôle dessus.
C'est bien clair, hein, Simon?
Oui, c'est une bonne façon de conclure cette émission.
Exactement. Et on va même conclure en musique. Avant ça, vous dire qu'on est évidemment on a une page sur le site de Choc, on a notre propre site Internet, on est sur Facebook aussi. Et vous pouvez nous écrire aussi par courriel, allez voir ça sur toutes nos plateformes. Donc, on va être de retour le 27 novembre, donc 18h30 en direct et aussi en balado. On va se laisser avec un groupe qui est dans le palmarès international de Choc en 14e position, qui s'appelle Agriculture ou Agriculture. C'est un bel américain.
Donc, Agriculture.
Agriculture. L'album s'appelle The Spiritual Sound, le son spirituel, pardon, sorti en octobre dernier, donc tout récemment. La pièce s'appelle Flea. C'est leur quatrième album. C'est un quatuor de Los Angeles qui diffère du ecstatic black metal, donc du black metal en extase, qui seront donc à Vancouver le 18 novembre et à Montréal le 11 février 2026. Et c'est un groupe que j'ai déjà vu en concert qui est assez particulier. C'est un black metal un peu expérimental. Donc, on va se laisser avec ça, la pièce Flea. Et je voulais juste vous remercier, Marie-Ève et Simon, en nous quittant ce soir de cette belle émission.
Ben merci à toi et bonne écoute.
Et à nos invités aussi.
Oui, à nos invités et surtout aux auditeurs, auditrices. Donc, bonne soirée. On se laisse avec Agriculture!